Jeudi 30 avril, Frédéric Le Turc, maire d'Arras, a donné une conférence de presse via Internet pour afficher sa position en tant que maire suite aux annonces du Premier ministre Édouard Philippe et concernant le déconfinement prévu le 11 mai. Le premier axe de cette conférence portait sur les annonces du Premier ministre datant du 28 avril et on peut résumer les propos de Frédéric Le Turc comme un soutien au gouvernement et ses dispositions en vue des décisions prises pour ce déconfinement. Le deuxième axe portait sur le retour à l'école concernant la ville d'Arras. Il est resté plutôt évasif. Je vous propose d'écouter un large extrait de ses propos.
Concernant les écoles, qui est quand même un sujet dont je vous reparlerai la semaine prochaine, hein, parce que je vous ai promis le 7 de vous retrouver pour en parler. Ma position, contrairement à ce que je lisais notamment dans La Voix du Nord sur les élus du bassin minier, ma position, c'est de faire confiance à la communauté éducative qui est, composée forcément de nos équipes qui travaillent dans les écoles, mais aussi des parents d'élèves, des enseignants, des directeurs d'école, pour construire l'accueil du possible dans chacune de nos écoles quand les écoles décident que la réouverture est possible. Ça veut dire en fait que je ne pars pas sur une organisation, je dirais, théorique et généralisable, je pars en fait sur une déclinaison du protocole du gouvernement appliqué au département du Pas-de-Calais par le directeur académique, décliné par chacune des communes et notamment par Arras, et adapté sur mesure à l'école, à la classe, et à l'enfant, à la ville, parce que la ville d'Arras, c'est pas en fait la ville de Calais, c'est pas la ville de Boulogne, c'est pas la ville de Bapaume, c'est pas la ville de Lille. Je pense qu'on a des réalités en fait géographiques qui sont pas les mêmes, et c'est pas de même nature d'organiser un retour à l'école à Arras que de l'organiser à Roquelincourt, à Saint-Laurent-Blangy, ou à Basseux. Il y a des similitudes et c'est pour ça qu'on dialogue au sein de la communauté urbaine pour faire un travail commun sur ces sujets-là, mais il y a aussi des nuances et des différences parce que la taille des écoles, les équipements autour de l'école, les moyens quelquefois dans l'école, le nombre d'enfants accueillis sont différents. Donc forcément, on ne pourra pas obligatoirement organiser les choses de la même manière. Donc on fera un sur-mesure, en tout cas nous on fera un sur-mesure décliné pour la ville, un sur-mesure pour chacune des écoles, parce que accueillir à Jean Jaurès 100 salles de sport à proximité avec 3 classes qui fonctionnent, c'est pas la même chose que d'accueillir à Molière avec peut-être une dizaine de classes, avec une salle de sport, avec une cour en fait imposante et avec deux ou trois entrées différentes possibles pour accéder aux salles de cours. Je dirais que c'est l'organisation est différente. Et donc, ce sur-mesure, il faut en fait que l'on puisse l'organiser avec la communauté éducative, sur-mesure par rapport à la classe, parce que il y a des enseignants qui se sentiront peut-être à l'aise pour accueillir, comme le dit le ministre, 15 élèves. Et puis, il y a des enseignants qui, en fait, se sentiront plutôt à l'aise pour en accueillir 5 ou 6. Et moi, je fais confiance aux enseignants, aux parents, à nos équipes pour déterminer ce qui est soutenable, ce qui est faisable. Voilà. Et le sur-mesure par rapport aux élèves, hyper important parce que dans ce contexte de Covid, je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il y a des révélations qui apparaissent encore plus fortement qu'hier sur des difficultés rencontrées par certains enfants, des difficultés rencontrées dans certaines familles et donc forcément des difficultés cumulées dans certaines écoles. Et il est clair, en fait, que ces réalités-là, il faut, en fait, que, sans jugement, on en prenne la mesure pour pouvoir, en fait, essayer d'être au rendez-vous de ce qui est, je dirais, souhaitable et incontournable pour l'enfant et au rendez-vous de ce qui est aussi attendu par les parents. Je pense que les parents, dans ce contexte-là, plus que jamais, ont besoin d'être rassurés, mais ont aussi besoin d'être soutenus. C'est pas facile de garder un, deux ou trois enfants sur un, deux ou trois niveaux différents en gérant un, deux, trois temps de visioconférence avec des enseignants pour essayer de faire que les enfants ne perdent pas et assurent une certaine continuité éducative, tout en étant parent, gérant en fait ses propres visioconférences avec son employeur, avec ses collègues et assurant en quelque sorte un télétravail à distance. Je dirais que l'équation de ce qu'on demande aujourd'hui à chaque individu de réaliser dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle est sans commune mesure avec le métro-boulot-dodo que l'on connaissait jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, en fait, ce retour à l'école contribue à aider les familles à vivre un retour apaisé, sécurisé, peut-être au travail, mais aussi apaisé et sécurisé pour les enfants à l'école. Voilà. Et il est clair, en fait, que tous les enfants ne pourront pas être accueillis en même temps. Donc, il faudra aussi que les employeurs fassent des efforts d'horaire, des efforts de compréhension, des efforts d'ajustement de mission et peut-être des efforts pour accueillir sur un temps court les enfants en petits groupes, en petits nombres, voire seuls, à un endroit de l'espace en fait qui est habituellement dédié au travail ou dédié à un certain accueil, parce que les parents auront besoin de quand même passer dans l'entreprise pour peut-être avoir un temps de convergence professionnelle. Et si l'enfant n'est pas à l'école et si la maman ou le papa travaille, bah les enfants vont pas rester chez eux tout seuls ou dans la voiture. Il va bien falloir en fait que l'employeur soit cohérent et avec la considération qu'il a pour ses employés et surtout compréhensif et quelquefois force de proposition. Donc, la concertation, elle est en mouvement. Les parents donc vont être questionnés. Un questionnaire va paraître sur l'espace famille dédié aux parents d'élèves. Les parents vont être, pour ceux qui siègent au conseil d'école, invités avec les directeurs d'école et nos équipes à travailler ensemble en conférence téléphonique, comme je vous l'avais dit, la semaine prochaine, pour construire en quelque sorte le modèle qui va bien par rapport à l'école concernée. Et le 7, donc c'est-à-dire jeudi prochain, je vous dirai dans quelles conditions la reprise de l'école sera possible à Arras et comment ça se passera dans chacune des écoles de la ville d'Arras. Chaque parent recevra par le compte famille une information sur les modalités possibles de retour. Je dis possible parce que je pense que le retour ne sera pas obligatoire. Je pense que le retour sera pas obligatoirement, je dirais, demander de la même manière dans tous les quartiers, dans toutes les écoles, par toutes les familles, et peut-être demander différemment par les familles d'une journée sur l'autre. Et donc, il faudra qu'on soit capable de s'adapter. Il faudra aussi que les familles soient compréhensives vis-à-vis de la ville, parce que une famille qui n'indiquerait pas inscrire son enfant pour une semaine donnée, forcément peut conduire à ce qu'on ne soit pas en capacité d'accueillir l'enfant. Il va falloir en fait que on puisse comprendre le besoin d'anticipation qui sera le nôtre, surtout si l'on veut assurer la cantine scolaire. Et je pense qu'il faut assurer la cantine scolaire pour deux raisons. La première, c'est que demander aux enfants de venir avec leur panier, leur repas, conduirait à ce qu'on organise une intendance pour mettre dans de bonnes conditions les repas qui seraient préparés par les parents, qui me paraît très difficile, avec des croisements de paniers, des croisements de sachets, un nombre de réfrigérateurs et d'endroits pour garder le tout, qui me paraît être assez compliqué. Et la deuxième raison, c'est parce que pour les familles, pour certaines familles, un repas équilibré pour les enfants à la cantine, c'est important. Je vous avais dit qu'on prenait contact avec toutes les familles de la ville et qu'on livrerait des paniers pour des familles qui en avaient besoin. J'étais très frappé par le nombre de familles qui m'ont contacté en privé sur les réseaux sociaux en me disant « Monsieur le maire, je suis en difficulté, habituellement mes enfants mangent à la cantine, là je me retrouve à gérer les 2, 3 ou 4 à la maison, ça fait cher, ça fait lourd, je veux pas priver mes enfants, mais je me retrouve en situation financière difficile, est-ce que vous pouvez m'aider ? On m'a dit que vous pouviez m'aider. » Et donc j'ai fait forcément prendre contact avec ces familles, mais elles allaient être de toute façon contactées comme toutes les autres. Et au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a distribué 350 paniers avec des denrées alimentaires, fruits, légumes, produits en fait énergétiques, et qui en fait ont fait l'objet de remerciements de la part de ces parents en fait, qui n'ont pas à être jugés. Ce sont simplement des familles modestes. Qui en fait quelquefois avaient un petit travail, qui ont perdu quelquefois leur travail à cause aussi de cette pandémie et qui en fait se retrouvent en difficulté avec les factures qui tombent, les loyers qui tombent et tout ce que vous connaissez dans la gestion du colis. Voilà. Donc pour moi en fait vraiment la cantine, le retour à la cantine très important. Et puis le suivi des enfants et la sécurisation du suivi des enfants très important. En fait on a repéré. Je vous avais dit que la carence numérique, c'était un sujet important. On a repéré que 227 familles sur les 2200 scolarisées à Arras n'avaient ni ordinateur, ni tablette, ni connexion Internet. Donc, ça veut dire que on fait d'emblée 227 enfants peut-être en difficulté scolaire assurée pour cette année, mais surtout pour tout leur parcours scolaire. Donc, notre devoir à nous, moi qui suis militant de l'école et militant de la réussite possible pour tous, je peux vous dire que notre combat, c'est de fournir à chacune de ces familles la tablette ou l'ordinateur avec un accompagnement sur mesure, parce qu'il est clair que si vous mettez un ordinateur dans la main d'un enfant qui a pas trop l'habitude de maîtriser et que les parents n'ont pas obligatoirement non plus l'habitude de maîtriser, ça peut être très compliqué. Donc, l'idée, c'est que le retour à l'école permette en fait de travailler sur mesure un protocole d'accompagnement. Il faut que nos équipes qui travaillent dans les écoles maîtrisent en quelque sorte ces outils pour que l'enfant qui est en confiance avec la famille, avec notre agent, avec son enseignant, puisse appeler en fait et être débloqué s'il est en difficulté de continuité scolaire. Voilà ce que je voulais vous dire concernant l'école. Donc moi je suis plutôt sur une approche en fait pragmatique parce que bah voilà, il faut faire les choses de manière concrète, responsable parce que il faut pas faire n'importe quoi et respectueuse parce que il faut respecter la position et la décision que seront celles des familles en fait dans leur indépendance de vie et leurs décisions respectives. Voilà.
Lors de cette conférence de presse, Frédéric Le Turc a également abordé la présentation de l'organisation de la municipalité d'Arras pour la distribution des masques aux Arrageois.
Concernant les masques, la région a annoncé commandé 6 millions de masques pour les habitants de la région. Les communes, les intercommunalités ont été amenées à confirmer la commande de masques dont ils avaient besoin pour chacune de leurs territoires. Donc on l'a fait sur la communauté urbaine, on l'a fait dans chacune de nos communes. Parallèlement à ça, la communauté urbaine avait aussi décidé, quelques jours avant la région, de procéder à une commande de masques lavables pour chaque habitant. Donc ça veut dire que potentiellement et concrètement, les habitants de la communauté urbaine d'Arras bénéficieront d'une affectation, d'une distribution de 2 masques par habitant dans les prochaines semaines. La question, c'est quand on distribuera les masques, quand on les aura. Aujourd'hui, on est sur des incertitudes de livraison. Notre combat, au niveau de la commune et au niveau de la communauté urbaine et au niveau de la région, c'est d'essayer de percevoir ces masques première quinzaine de mai. En fait, il faut comprendre que toutes les demandes dans le monde se sont opérées quasiment au même moment, que les productions dans le monde n'étaient pas en fait à la hauteur des besoins qui sont aujourd'hui les nôtres, que les besoins de nos hôpitaux ont été démultipliés par 10, par 20, par 50 dans certaines régions, parce que en fait les besoins d'être aux côtés des patients étaient 10 fois, 20 fois, 50 fois plus importants. Et on sait très bien qu'un masque se remplace régulièrement, surtout quand il est utilisé dans le milieu médical. Donc ceux qui disent « Yaka Faucon, le gouvernement aurait dû… » très franchement, j'entends, le moment sera venu peut-être de voir si certaines choses ont été peut-être manquées à l'allumage, mais en tout état de cause, les commandes, elles sont passées. Le gouvernement a bien fait comprendre qu'il se reposait, s'appuyait sur les collectivités locales pour équiper, entre guillemets, nos concitoyens. Et la priorité a été donnée aux personnes qui travaillaient dans le sanitaire, dans la santé. La priorité a été donnée par les territoires, et le nôtre en particulier, en direction de ceux qui travaillaient pendant cette séquence de confinement, y compris les commerçants, y compris en fait certains artisans, y compris certaines équipes qui travaillent pour ramasser les poubelles, pour en fait conduire les bus, pour assurer l'accueil en mairie d'un certain nombre de nos concitoyens, pour en fait assurer toute une série de missions. Notre objectif maintenant, c'est d'assurer le grand public. Et donc ça, c'est rendez-vous début mai. On a décidé au niveau de la ville d'Arras d'organiser la distribution et d'anticiper la préparation de la distribution. Elle se fera en utilisant l'organisation des bureaux de vote. C'est-à-dire que on activera en fait globalement les bureaux de vote avec une équipe d'élus, d'habitants peut-être, de collaborateurs pour veiller à accueillir le public qui sera invité à venir retirer son ou ses masques avec une déclaration de composition de famille. Donc on distribuera en fait un formulaire où on fera confiance en fait aux personnes qui tiennent en fait ces bureaux de distribution, et donc les habitants seront amenés à retirer le nombre de masques qui sont nécessaires pour la composition de leur famille. Voilà, on aura à peu près 150 agents qui seront mobilisés pour la distribution, et ça se fera forcément dans le respect des gestes barrières qui avaient été en fait mis en œuvre pour les élections municipales. On s'est dit que c'était certainement la meilleure formule pour éviter les difficultés de distribution.
Le troisième axe de cette conférence de presse était basé sur un plan mobilité pour accompagner le déconfinement progressif à compter du 11 mai. On en écoute les principales indications.
« un dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est un point, je dirais, d'actualité, parce que forcément, on est obligé d'y penser, qui est pour moi un vrai levier de transformation du territoire pour essayer d'être au rendez-vous des transitions, et notamment la transition écologique. Vivre dans une ville apaisée, c'est un objectif aujourd'hui partagé. Je pense qu'on a démontré, avec l'apaisement de la place des Héros, que ça apportait en fait une ambiance de vie, et pas simplement de ville en cœur de ville, une ambiance de vie qui était complètement tout autre. Vivre et partager des espaces en grande convivialité, sans être obligatoirement pollué par des traversées de véhicules ou par des véhicules qui, respectent leur déplacement à eux, mais ont des difficultés à respecter la manière dont les autres se déplacent à pied ou en vélo ou en bus, est quelque chose en fait que l'on doit traiter. Donc, j'ai mis en place depuis maintenant un an un groupe de travail qui s'appelle Mobilité et qui met autour de la table des élus et des techniciens, des collaborateurs qui essayent de croiser leurs regards sur comment on peut travailler ces questions de mobilité en ville pour demain. J'ai demandé à ce qu'on regarde cette question de mobilité en période de déconfinement. Comment on pouvait essayer d'imaginer la mobilité en période de déconfinement. Donc, il y a 4 principes que j'ai validés, que j'ai présentés en toute commission lundi soir, puisque j'avais une toute commission pour les élus qui siègent encore au conseil municipal, majorité opposition, et pour les élus qui siégeront demain au conseil municipal, majorité opposition. Les principes que j'ai présentés, qui seront 4 engagements autour desquels, en fait, le travail municipal s'organise, mais le travail aussi avec la communauté urbaine et avec les communes voisines, sont basés sur les suivants. 1. Toute la ville d'Arras va passer dans les prochaines semaines en zone 30. Tous les quartiers d'Arras seront en zone 30. Les seules rues qui resteront en zone 50, en circulation à 50 à l'heure, seront les grands axes de circulation, les boulevards, qui permettent de relier en fait une commune à une autre, d'être traversés, mais dans ce principe de boulevard, d'avenue que vous connaissez et qui serait, je dirais, difficilement tenable à 30 à l'heure. Mais l'objectif, c'est de sécuriser, tranquilliser, apaiser, non pas simplement un quartier ou une partie de quartier, mais toute la ville. Il est clair, en fait, que dans ce passage général à 30 à l'heure, les ajustements seront faits dans le dialogue avec les communes voisines pour qu'il y ait, en fait, des connexions et des cohérences et pas des contradictions entre une commune et une autre. Deuxième principe, le cœur de ville, lui, passera en zone 20, c'est-à-dire que les modalités qu'on avait mis en place sur la place Foch, la zone de rencontre, va en fait s'étaler sur tout le cœur de ville, entre les rues Saint-Aubert, Ernestal, boulevard Schumann. Il y a un périmètre qui est en train d'être défini et qui permettra en quelque sorte du pont de cité au Crinchon, jusqu'à la place de la gare, en dehors des boulevards qui la traversent, je pense notamment au boulevard Federbe, ce secteur sera en zone 20. Ça veut dire que les vélos et les piétons seront en fait prioritaires sur les circulations connues de la voiture et du bus. Troisième engagement, c'est que la ville va accélérer les pistes cyclables en ville et pour relier une commune à une autre, pour essayer de connecter en fait les choses, c'est-à-dire que le plan piste cyclable, le plan mode doux que l'on travaille à la communauté urbaine depuis ces dernières années, que Françoise Rossignol en fait est chargé de travailler d'un point de vue stratégique et Pierre Ansart de mettre en œuvre de manière opérationnelle, va s'accélérer. Et s'accélérer notamment sur Arras, avec des voies dédiées, une matérialisation qui va en fait s'organiser pour essayer en fait de faciliter, d'encourager les modes doux. Alors une lettre va être distribuée à tous les Arageois la semaine prochaine. Elle reprendra globalement les principes généraux autour desquels on travaille cette séquence depuis cette semaine. La manière dont on travaille la sécurité, le retour des enfants à l'école, la manière dont on prépare et on organise cette ville apaisée et ces questions de mobilité, la manière aussi, mais je vous en ai parlé à différentes reprises, dont on encourage, dont on soutient le monde économique, le monde associatif, les commerces, toutes les professions en fait qui avaient besoin d'un coup de pouce dans cette séquence, et on a mis en place le plan avec la communauté urbaine, le plan avec l'office du tourisme, le plan avec la ville en direction des commerçants. Donc je reviens pas dessus, mais on rappellera quelques mots à ce sujet-là. Et puis bien sûr la distribution des masques, qui est quand même un sujet central et régulièrement évoqué par nos habitants. À l'intérieur de cette lettre, vous aurez une carte avec les différents lieux de distribution de masques et les modalités qui interviendront. Voilà. Et puis on rappellera les quelques adresses qui vont bien pour aller se renseigner sur la vie de la cité, que ce soit en fait les réseaux sociaux, le site internet, le numéro de téléphone ou l'application Tell My City que l'on a remise en marche, qui se présente à nous maintenant sous un nouveau format et qui va nous servir de plus en plus d'espace d'information et de communication flash pour les habitants.
Pour terminer, j'ai pu poser trois questions à Frédéric Le Turc, dont l'une portait sur le maintien ou non de la citadine, navette urbaine gratuite, une autre sur la réouverture ou pas des parcs et aires de jeux pour enfants, et enfin, est-ce que le couvre-feu instauré par la ville d'Arras sera maintenu après le 11 mai ?
Alors, ce sont trois questions auxquelles je répondrai avec, je dirais, la compréhension que vous devez avoir de la manière dont le gouvernement fonctionne et dont je fonctionne, c'est-à-dire en fait un pragmatisme et des décisions, je dirais, au jour le jour. À mon avis, ma position, c'est que la citadine ne peut pas en fait être remise en fonctionnement trop rapidement. Ça paraît compliqué parce que en fait le véhicule est petit. Donc aujourd'hui en fait la citadine ne roule pas. On verra en fait avec la communauté urbaine et Artis dans quelles conditions la remise en service de la citadine peut être réalisée. Mais je doute fort que ça puisse se faire rapidement. Concernant les parcs de jeux, si les parcs et les jardins sont réouverts, on peut imaginer en fait que les jeux soient en fait à nouveau accessibles. Il faudra simplement que l'on trouve avec les services un moyen d'en assurer la propreté et peut-être un encadrement sécurisé. Voilà, on verra en fait ce qui nous est recommandé. Dans le cadre de l'urgence, de l'état d'urgence, le couvre-feu avait du sens. Si l'urgence est levée, le couvre-feu a moins d'intérêt parce que en fait la police nationale aujourd'hui s'est organisée pour faire respecter le couvre-feu. Si en fait l'état d'urgence est levé, peut-être que ça sera plus compliqué pour elle de faire respecter le couvre-feu. Et je pense que aujourd'hui nos concitoyens au-delà du couvre-feu, ont compris l'intérêt de respecter, je dirais, des déplacements qui soient réfléchis et mesurés, des modes de vie qui soient respectueux, en fait, de la distanciation et des règles sanitaires, et que si tout le monde comprend que le 11 mai, peut-être, puisqu'on verra bien si on est en département rouge ou en département vert, mais le 11 mai, peut-être, ne sera pas, en fait, quoi qu'il arrive, une journée de libération. Ça sera une journée de déconfinement, c'est-à-dire, en fait, une journée de remise en connexion, mais une remise en connexion mesurée, responsable, raisonnable, et surtout, en fait, qui comprenne et qui intègre le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de vaccin, le risque, il reste là, et donc, il faut que chacun soit, en fait, je dirais, adulte dans son mode de vie et dans son mode de gestion. Si, en fait, il y avait des écarts, des débordements et des excès, ben, j'aviserais, comme disait Louis XIV, hein. Ça veut dire que s'il fallait que je reprenne un arrêté pour reposer un cadre, je le ferais.
Propos recueillis durant la conférence de presse donnée par Frédéric Le Turc, maire d'Arras, le jeudi 30 avril. On vous tiendra au courant des prochaines prédispositions pour la période de déconfinement et l'après, vu par la municipalité d'Arras.